Bonjour, bienvenue à votre émission Parole au présent. Ici Claude Julien. Mon invité, c'est Francine Robert, qui enseigne à l'Institut de pastoral des Dominicains à Montréal. Nous allons regarder ensemble la page d'Évangile qui sera proclamée dans les églises catholiques dans la fin de semaine qui vient. Donc, peut-être une brève présentation, Francine. Je crois qu'on est en présence d'un récit charnière, hein, bien situé au milieu du livre.
Oui, tout à fait. Et l'Évangile de Marc est un livre très bien construit, court, et ce qu'il a pris soin de placer au milieu, c'est ce très beau récit qu'on appelle la confession de foi de Pierre à Césarée, un récit connu, hein, il suffit de se rappeler Jésus qui dites-vous que je suis. Bon, c'est ce récit-là que nous avons. Pourquoi il est important et charnière? C'est parce que ce sera la première fois dans cet évangile que quelqu'un désigne Jésus comme le Christ. Et il y a eu, au tout premier verset de l'évangile, une annonce du narrateur, évangile de Jésus, Christ, Fils de Dieu. Et voilà, pour la première fois, après 8 chapitres, quelqu'un d'autre que le narrateur peut dire de Jésus qu'il est le Christ. Et il faudra attendre la fin de l'autre moitié pour que quelqu'un dise qu'il est fils de Dieu. Donc, on voit que c'est un récit stratégique. Peut-être à la lecture que nous entendrons, on pourrait être attentif au fait qu'il y a, je dirais, 3 étapes dans ce récit. Une conversation entre Jésus et les disciples qui comporte vraiment 2 étapes différentes. On voit que le ton est différent. Ça va changer à partir d'un certain moment. Donc, les 2 premières étapes, ce sont 2 parties de la conversation entre Jésus et les disciples, et une 3e étape qui est un enseignement de Jésus à la foule.
Alors, j'en fais lecture maintenant. Comme vous disiez, c'est au chapitre 8e, versets 27 à 35. Jésus s'en alla avec ses disciples vers les villages situés dans la région de Césarée de Philippe. En chemin, il les interrogeait. Au dire des gens, qui suis-je? Ils répondirent, Jean le Baptiste. Pour d'autres, Élie. Pour d'autres, un des prophètes. Il les interrogeait de nouveau. Et vous, qui dites-vous que je suis? Pierre prend la parole et répond, Tu es le Messie. Alors, il les interpella vivement, afin qu'ils ne parlent de lui à personne. Et pour la première fois, il leur enseigna qu'il fallait que le Fils de l'homme souffre beaucoup, qu'il soit rejeté par les anciens, les chefs des prêtres et les scribes, qu'il soit tué, et que, 3 jours après, il ressuscite. Jésus disait cela ouvertement. Pierre, le prenant à part, se mit à lui faire de vifs reproches. Mais Jésus, se retournant et voyant ses disciples, interpella vivement Pierre et lui dit, « Passe derrière moi, Satan. Tes pensées ne sont pas celles de Dieu, mais celles des hommes. » Et, appelant la foule avec ses disciples, il leur dit, « Si quelqu'un veut marcher derrière moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il prenne sa croix et qu'il me suive. Car celui qui veut sauver sa vie la perdra, mais celui qui perdra sa vie pour moi et pour l'Évangile la sauvera. »
Donc, comme nous le disions, nous terminons la première moitié de l'Évangile et on pourrait dire, pour prendre une comparaison un peu imagée, que Pierre vient de passer avec succès l'examen de la fin de la première année, vous voyez. Et il va s'engager dans un nouveau programme. C'est intéressant, la traduction du lectionnaire. Pour la première fois, il leur enseigna. Donc, ce que nous avons ici, c'est la première annonce de la Passion. Textuellement, c'est « il commença à leur enseigner ». J'aime bien cette traduction pour la première fois. C'est comme si Jésus disait « bon, ok, vous avez compris quelque chose, maintenant on passe à autre chose ». Et tout tourne là-dessus. Qu'est-ce qu'ils ont compris? Que Jésus est le Messie. Qu'est-ce qu'ils doivent comprendre? Que la Passion s'en vient. Je pense qu'on doit prendre la mesure de la grande contradiction qu'il y a entre ces deux éléments. Alors, Jésus entend Pierre lui dire « Tu es le Messie » et qu'est-ce qu'il fait? Il le rabroue aussitôt. Rabrouer n'est pas un verbe très courant en français. Ça a été traduit ici « Il les interpella vivement ». Je mentionne que c'est rabrouer parce que ce même verbe revient trois fois dans ce très court récit. Rabrouer, c'est un verbe fort, hein? C'est enjoindre très sévèrement, avec autorité. Par exemple, c'est le verbe que Marc utilise pour faire taire les esprits mauvais.
Et aussi calmer la mer, je
oui,
pense.
Oui, et à cette occasion-là, ouais. Au chapitre 4,
la tempête a passé.
C'est ouais. Traduit menacé. Mm-hmm. Donc, ça serait intéressant si on lisait, par exemple, « Et Jésus menaça Pierre afin mm-hmm. qu'il ne parle de lui à personne. » Et là, on se dirait, ben voyons, qu'est-ce qu'il lui prend?
Et c'est comme ça qu'on devrait le traduire.
On pourrait, ouais. À tout le moins, en tout cas, rabrouer, interpeller vivement, ça manque un petit peu d'agressivité, okay. Je dirais. Mm-hmm. Alors, on a cette certitude tranquille à propos de Jésus, tu es le Messie. Donc, on devrait être étonné lorsque on voit que Marc enchaîne aussitôt. Pierre dit, tu es le Christ. Et là, Marc enchaîne avec la réaction de Jésus, en faisant dire à Jésus, ne parlez de cela à personne. Mm-hmm. On doit être surpris de ça. On doit consentir à se laisser surprendre par cette intervention et par le hiatus, je dirais, la cassure que ça introduit que de lire tout de suite la première annonce de la Passion. D'autant plus que Marc précise, et il disait cela ouvertement, verset 32, ça vient juste contredire et ne dites cela à personne. Mm-hmm. Ne dites cela à personne, c'est tu es le Christ. Parler ouvertement, c'est je m'en vais à l'échec et à la mort. Donc, il y a vraiment une contradiction très forte ici. Hein. Et on le voit par la réaction de Pierre. Pierre qui rabroue Jésus. C'est là le même verbe, vous voyez, qu'on a traduit comment dans la lecture au verset 32, faire de vifs reproches. Pierre, le prenant à part, se mit à lui faire de vifs reproches. Mais c'est le même verbe rabrouer que Jésus a utilisé tout à l'heure. Donc, vous voyez, ça sert à la même chose. Pierre est en train de dire, parle pas de ça. Tout comme Jésus disait à Pierre, ne parlez pas de cela.
Ce que vous dites, c'est qu'en grec, c'est le même verbe pour Jésus interpella vivement Pierre et lui dit, et c'est le même verbe pour quand...
Lorsque Pierre prend Jésus à part et lui fait de vifs reproches. Mm-hmm. Bon, c'est intéressant comme traduction, mais cette insistance-là sur le mot, donc qui est le même en grec, elle est, je la fais parce que c'est ce même verbe que Jésus utilise donc pour faire taire les esprits mauvais. Donc, vous voyez, c'est un verbe qui veut dire... Ce que tu dis, là, je ne veux pas l'entendre. Mm-hmm. Hein? Donc, n'en parlez pas, dit Jésus à Pierre, lorsque Pierre lui dit, tu es le Messie. Jésus annonce sa passion. Pierre, c'est comme s'il lui disait, ne parle pas de ça. Je veux pas entendre ça. Et Jésus,
à son
entendant
tour,
la réaction exactement.
À son tour, va dire à Pierre, tais-toi.
C'est ça. Mm-hmm. Ne réagis pas comme ça, ne parle pas comme ça. Alors, on voit les tensions, hein, dans ce récit. Qui sont pas très bien harmonisés, je dirais, avec comment dire, la façon dont nous on prononce les titres de Jésus avec une certitude tranquille. Hein, oui, on croit que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu, comme s'il n'y avait pas de problème. Il y en a plein de problèmes, en tout cas d'après Marc, dans sa manière de raconter, il y en a plein de problèmes. Quel est le problème? C'est que Pierre, disant tu es le Christ, n'intègre pas dans sa vision du Christ la perspective de l'échec. Et lorsque Jésus annonce sa passion, ce qu'il annonce, c'est son échec, finalement.
Alors, bon, la réaction de Pierre est très compréhensible.
Tout à fait, oui. Parce que le Messie, c'est le personnage par lequel le règne de Dieu arrive. Là, j'utilise indifféremment Christ ou Messie. On doit peut-être préciser pour les gens qui l'ignorent que c'est le même mot. D'avant. Christ en grec, Messie c'est un mot hébreu qu'on prononce à la française tout simplement, et les deux veulent dire celui qui a reçu l'onction. Ça va? Donc, des traductions vont mettre ici « tu es le Christ », d'autres « tu es le Messie ». C'est la même chose.
Donc, dans la pensée de Pierre, c'est un Messie triomphant.
Ah, oui.
Et c'est inacceptable c'est qu'il annonce sa mort.
Ouais. D'ailleurs, c'est presque un pléonasme de dire un Messie triomphant. Un Messie, ça ne peut que triompher. Et c'est vrai, non, mais c'est intéressant que vous le disiez.
Dans sa définition même.
Dans sa définition, c'est ça. Et... l'échec est impossible. Bon, on peut toujours se dire après coup, oui, mais il n'y en a pas d'échec, Jésus est ressuscité. Mais c'est pas ça le scénario de l'arrivée du règne de Dieu. Le scénario de l'arrivée du règne de Dieu, c'est Dieu qui envoie quelqu'un. C'est la toute-puissance de Dieu qui est derrière ce héros, on peut dire, ce personnage particulièrement charismatique et puissant. Donc, enfin, si Dieu décide de faire arriver son règne, quoi, Dieu a les moyens de le faire arriver. S'il décide que c'est maintenant, c'est maintenant. Alors, le Messie ne peut que avoir tous les moyens qu'il faut, puisque c'est ce que Dieu fait. Et Dieu est tout puissant. Il y a tout ça dans la profession de foi de Pierre, tu es le Christ. Vous voyez? Donc, dès que Jésus dit, oui, mais ça fonctionnera pas, oui, mais les chefs religieux vont pas embarquer, et pire, je vais les laisser me rejeter, je vais les laisser me tuer, pour Pierre, là, ça, pour ça Pierre passe. Et les autres, hein,
ça passe pas.
C'est absolument incompréhensible, et donc Pierre intervient tout de suite en disant, non, ça se peut pas. Et ça ne le console pas que Jésus dise, oui, mais je vais ressusciter après, puisque Pierre fait partie des gens qui croient que la résurrection va arriver avec le règne de Dieu de toute manière. Donc, Jésus est pas censé mourir s'il est le Messie, point à la ligne. Alors,
maintenant, la réponse de Jésus est assez
dure.
Passe derrière moi, Satan.
Satan. Allez, hop. L'appellation Satan, c'est pas rien. Passe derrière moi, ça va. Tais-toi, ça pourrait aller encore. Mais Satan, je trouve, est indicateur dans le fait que ce soit ce titre-là qui soit utilisé, puisque c'est le tentateur, Satan. Et donc, ça veut dire que la réaction de Pierre advient à Jésus comme une tentation.
Il le reçoit comme ça.
Ouais, c'est la tentation laquelle de ne pas
passer par la mort.
Par la mort. Donc d'agir en Messie tout puissant, d'agir, de faire jouer pour sa mission, pour le succès de sa mission, la toute puissance de Dieu. D'autant plus que je l'avais pas dit là, mais on peut peut-être signaler que dans les 8 premiers chapitres, Marc a regroupé presque tous ses récits de miracles. Hein. Donc Jésus est déjà perçu comme un personnage plutôt puissant quand même. Et c'est une puissance de salut, une puissance qui fait du bien aux gens. Vous voyez. Donc Pierre, c'est un petit peu légitime qui voit en lui la toute puissance. Alors Jésus reçoit ça comme étant une tentation d'utiliser la puissance. Bon, si on voulait faire court, on dirait pour son propre bénéfice.
C'est moins une attaque personnelle sur Pierre, en fait.
Il réagit.
Jésus perçoit Pierre comme étant le tentateur.
Oui.
Il est personnellement touché par ça.
Oui, et c'est une sorte de tentation aussi, c'est vrai. Parce que, et je voudrais pas qu'on ramène ça à, Jésus pourrait être tenté d'échapper à la mort. C'est plus théologique que ça, ce qui est en cause. C'est pour faire advenir le règne de Dieu, les moyens tout-puissants sont justifiés. On dirait c'est pour la bonne cause, quoi. Voyez. Et donc, c'est pas juste l'idée d'échapper à la mort qui est la tentation. C'est de faire arriver le règne de Dieu grâce à la toute-puissance de Dieu. Et c'est pour ça que je dis qu'il y a quelque chose de théologique là-dedans. C'est vous serez comme des dieux. Tu seras comme un dieu. Exactement ce que le serpent dit. Au chapitre de la Genèse, au troisième chapitre, là, dans l'histoire du jardin. Vous serez comme des dieux.
Mm-hmm. C'est la tentation par excellence.
Oui, de tout être humain, probablement. Ouais. C'est pour ça qu'on appelle ça le péché originel. Mm-hmm. Et, enfin, c'est peut-être pour ça. Ça devrait être pour ça, disons.
Mm-hmm. Oui. Et ceci m'amène à faire des liens avec Césarée de Philippe. Est-ce que ça se peut que la situation géographique, César, ça me fait penser à César, là, vous parlez de puissance, de triomphe.
Tout à fait.
Un règne qui arrive par la force, et puis, ça se passe à Césarée de Philippe comme par hasard.
Comme par hasard. J'avoue qu'ici, je n'ai vu ça dans aucun commentaire, tandis que tout le reste, ça fait partie aussi des commentaires que j'ai pu lire. Mais il me semble que c'est intéressant, en tout cas, de signaler que c'est en route vers Césarée de Philippe, ville nommée en hommage à l'empereur, d'autant plus que Marc écrit pour des Romains. Mm-hmm. Et donc, la puissance, la toute-puissance de l'empereur, ils l'ont partout sous les yeux. Et César est devenu un titre. C'est le titre de tous les empereurs. Hein. C'est César Auguste, c'est César Néron plus tard, au temps de Marc. Et ce n'est pas le Jules César des films d'Astérix, là. Mm-hmm. C'est le titre qui incarne par excellence le pouvoir suprême, le pouvoir absolu. Donc, qu'est-ce qui est plus puissant que César? Dieu. Et si on joue le jeu du plus fort, Dieu va gagner. Parce que Dieu est plus fort que tout le monde, vous voyez? C'est ça la tentation. Et c'est comme si Pierre était lui-même entré en tentation dès qu'il dit « tu es le Messie ». Et là, je vais élargir un peu rapidement parce qu'on n'a pas beaucoup de temps. C'est comme si Marc présume que tous les lecteurs chrétiens entrent en tentation à chaque fois qu'ils voient en Jésus le Christ Tout-Puissant, vous voyez? Et on est toujours comme tenté de ramener ça à une image de Dieu qui met en œuvre sa toute-puissance parce que Dieu peut faire ce qu'il veut, quand il veut, comme il veut. Et c'est là-dessus que finalement ça accroche entre Jésus et Pierre, mais probablement du point de vue de Marc, entre la perspective que Dieu nous propose dans l'Évangile et la perspective que nous, on entretient dans notre imaginaire religieux, je dirais.
Bon, c'est ça. Alors, comme vous dites, là, si j'ai bien compris, l'Évangile de Marc, c'est bon de le rappeler, a été écrit, j'allais dire, dans la Rome impériale, quoi, hein, proche de l'empereur et tout ça. Et il s'adresse aux lecteurs, à ses lecteurs, puis oui. Il leur dit, en utilisant Pierre, d'une certaine façon, il leur dit, si vous cherchez un messie triomphant, ouais. Ben dommage, mais vous êtes à la mauvaise enseigne.
Oui, je pense que c'est ça. Et en fait, l'ensemble du cheminement des disciples chez Marc nous oriente de cette manière-là. Si on avait seulement ce petit récit, ce serait peut-être moins clair. Mais on va le voir la semaine prochaine à la deuxième annonce de la Passion et on le verra quelques dimanches plus tard à la troisième annonce de la Passion. À chaque fois, on voit bien que les disciples ont de la difficulté à intégrer, non pas que Jésus soit le Messie, mais que Jésus n'est pas derrière lui, n'est pas pour le, si je peux me permettre un anglicisme, le baquer, la toute-puissance de Dieu. Vous voyez, et donc, ici, Pierre incarne la catéchèse que Marc propose à ses chrétiens, finalement. Donc, Jésus a réagi, a fait taire Pierre. Il a fait taire, on pourrait dire aussi, parce que, comme il dit, les pensées de Pierre, on dit toujours Pierre, mais il représente tous les disciples. « Tes pensées, dit Jésus, ne sont pas celles de Dieu, mais celles des hommes. » C'est notre manière naturelle de penser le fonctionnement de Dieu que Pierre représente. C'est pas un mauvais garçon, hein, vous voyez. Mm-hmm. C'est pas un mauvais disciple non plus. Non. Il dit « Tu es le Christ » comme spontanément « Je dis tu es le Christ » et comme tout le monde dit « Voilà, Dieu est tout-puissant. » Et Jésus donc dit « Ta manière de penser n'est pas celle de Dieu, mais celle des hommes. » Et là-dessus, Jésus enchaîne en faisant venir une foule, et là, on se demande d'où elle sort, cette foule, puisque Jésus est en route vers Césarée de Philippe. On est donc sorti de Galilée, on est vers le nord-est. Et voici que, au verset 34, appelant la foule avec ses disciples.
C'est un peu surprenant, ça.
Oui, il n'y a pas de foule là. Si on veut se faire un film, quelque chose de plausible, il n'y a pas de foule là. Jésus est en route comme pour une sorte de sortie des circuits habituels. Hein. Mm-hmm. Donc, c'est clair que la géographie, vous l'avez dit, n'est pas innocente. Et Marc ne cherche pas la vraisemblance. Donc, les disciples sont là avec Jésus dans ce petit voyage vers le nord-est. Et voilà tout à coup qu'il y a une foule disponible à être appelée. Je pense pas que c'est de la maladresse dans la mise en scène de Marc, hein, mais que c'est exprès pour dire, si vous ne vous êtes pas encore rendu compte, vous, lecteurs, que la catéchèse est pour vous, c'est le temps, là. On est appelé.
C'est pas strict.
Et on sort de nulle part. Je veux dire, on est les disciples après Pâques vont venir de n'importe où, enfin de partout. Et donc, on fait partie de cette foule d'une certaine manière qui sort de nulle part et qui est concernée par l'enseignement qui va venir. Parce que tout disciple est concerné par ce qui précède. Ce qui précède parlait de Jésus. qu'est-ce qui vient? Ça parle du disciple. Vous voyez? Donc, si on a telle sorte de Messie, on a telle sorte de disciple. C'est ce que Jésus va dire autrement. Si quelqu'un veut marcher derrière moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il prenne sa croix, bon, celui qui perd sa vie la sauve. Ça ne veut pas du tout dire, vous savez, si vous voulez être mon disciple, vous devez souffrir. Et vous devez mourir sur une croix ou mourir... Pas du tout. Ça veut dire, vous n'aurez pas plus que moi les moyens de la toute-puissance de Dieu. Voilà, Dieu fonctionne à la façon dont je fais mes propres choix, dit Jésus. Et si vous marchez dans l'Évangile et avec moi, vous faites les mêmes choix. Ces choix-là, ça n'est pas, je l'aurais dit, le choix de souffrir... Mais c'est le choix de ne pas jouer la règle du jeu du plus fort. Ça va être la même chose. Vous n'aurez pas pour vous les moyens d'imposer aux autres. Et ça, c'est l'Évangile, dit Jésus. De sorte que celui qui perd sa vie pour moi et pour l'Évangile la sauvera. Nous, on a tendance à comprendre ça comme étant deux choses séparées. Je vais perdre ma vie, oui, mais c'est pour l'Évangile. Bon, c'est un paradoxe parce que l'Évangile est censé être une bonne nouvelle. Alors, qu'est-ce que c'est que cette affaire de perdre sa vie pour la sauver? Dans Marc, la bonne nouvelle, c'est que Dieu ne joue pas la règle du plus fort. C'est pas les choix qu'il fait. On le voit à travers les choix de Jésus comme Messie. Est-ce que ça, c'est une bonne nouvelle? D'après Marc, oui. Et moi, j'explorerais ça peut-être dans une direction un peu plus anthropologique, je dirais. La bonne nouvelle, c'est que, pour moi en tout cas, c'est que la loi du plus fort, c'est pas ça, la loi de la vie humaine. La loi du plus fort, là, je pense à des clichés, si vous me permettez des anglicismes, des clichés de la culture actuelle. Il y a les winners, puis il y a les losers. Et les gens, les winners, les prêts à tout pour gagner sur tout le monde, ceux à qui tout appartient, t'as juste à avoir l'audace de le prendre. On voit ça encore... Excusez-moi, mais en venant tout à l'heure dans le bouchon du pont Champlain, là, ceux qui prennent l'accotement, puis qui passent devant tout le monde, puis ils s'en fichent. Vous voyez, c'est ça les winners. Si vous êtes trop nono pour le faire, vous autres, vous êtes des losers. Mm-hmm. C'est un peu ça. Alors, ça, c'est la loi du plus fort, je dirais. Hein. Et si on fonctionne pas comme ça, si on n'est pas un peu un prédateur, je dirais, dans une société qui admire les prédateurs, eh bien, on est un loser. Tant pis pour nous. Mais vivre selon cette loi du plus fort ou selon cette loi de la jungle, en fait, je pense pas que ce soit une vie humaine, hein, et c'est une vie qui est toujours menacée, finalement, parce que à vivre selon cette loi-là, un jour ou l'autre, tu rencontres un plus fort, et donc tu te fais tasser à ton tour et tu te fais écraser à ton tour. Ça me paraît plus une loi de mort qu'une loi de vie. Alors, vouloir sauver sa vie en suivant cette règle-là, dit l'Évangile, c'est perdre sa vie. La bonne nouvelle, c'est que la vie humaine, elle peut fonctionner autrement et que la vraie loi de la vie pour une société humaine, finalement, c'est de sortir de la loi de la jungle hein, et c'est de découvrir qu'on est fait pour autre chose et que la vraie vie, c'est autre chose aussi. Puis je parle pas de la vie au ciel, je parle de la vie ici, maintenant. La vraie loi de la vie, c'est la loi de la coopération, c'est la loi du partage, c'est la loi « je respecte l'autre et l'autre va me respecter ». Et donc, on perd sa vie selon la loi de la jungle, mais finalement, on pourrait dire on la sauve selon la loi de l'humanité, ou de, je vais me permettre un mot qui est pas courant, selon la loi de l'hominisation. On devient de plus en plus humain et on sauve sa vie dans cette direction-là. Je dirais que l'Évangile de Marc va plus loin encore. Il ne fait pas que nous dire, voyez, les êtres humains sont faits pour une loi comme celle-là, la loi du partage et du respect. Non, les choix de Jésus comme Messie nous montrent que Dieu lui-même obéit à cette loi-là. C'est-à-dire qu'il ne joue pas, lui, selon la loi du plus fort, ce qu'il pourrait faire. On n'arrête pas de lui dire qu'il est le Dieu Tout-Puissant. Mais il n'utilise pas sa toute-puissance. Comment le voit-on? Ben, quand Jésus dit, vous savez, moi comme Messie, je serai rejeté, tout ça. Et donc, un Dieu qui, je vais employer une formule un peu forte, un Dieu qui accepte de perdre sa vie, parce que c'est comme ça qu'il la sauve. Parce que c'est la seule modalité de relation qu'il peut avoir avec nous. c'est de nous accueillir comme on est et de ne pas être le plus fort avec nous. Et il montre lui-même, en s'incarnant, en bout de ligne, c'est la loi de l'amour qui est source de la vraie vie. Et cela, pour Marc, c'est une bonne nouvelle.
Vous venez d'entendre Francine Robert, professeure à l'Institut de pastoral des Dominicains à Montréal. C'est Claude Julien qui vous parle et qui vous souhaite une bonne fin de semaine à notre antenne.